Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Myriam Lemaire.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans cette émission Au fil des pages, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le studio de Canal Academy Yves Bomatti pour évoquer le Dictionnaire de l'administration, ouvrage dont il a assuré la direction et qui a été récemment publié aux éditions Studirama. Yves Bomatti, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chef de mission des services du Premier ministre, directeur de la communication de la Direction de l'information légale et administrative, la DILA, résultant de la fusion des deux directions des journaux officiels et de la documentation française. Docteur ès lettres et sciences humaines, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et collections scolaires et universitaires dans les domaines de la littérature française et des techniques d'écriture. Je rappelle aussi que vous avez été lauréat de l'Académie française pour le prix Eugène Colas pour votre biographie sur Shah Abbas, empereur de Perse, 1587-1629. Yves Bomatti, pourquoi avez-vous décidé de réaliser un dictionnaire de l'administration ? Ce type d'ouvrage n'existait-il pas déjà ?
Alors, ce type d'ouvrage a existé, à vrai dire, il y a de nombreuses années, mais comme vous le savez, le périmètre de l'administration a énormément évolué depuis une trentaine d'années. Il a existé d'autres petits ouvrages. Un a été publié aux éditions Le Robert. C'est un petit ouvrage de 80 pages, extrêmement intéressant, mais assez allusif.
C'est un lexique,
qui n'entre pas dans les détails que peut permettre un livre de plus de 500 pages.
Alors pourquoi vous intéressez-vous tout particulièrement à ce sujet, le langage de l'administration ?
Bien, c'est une question vaste.
Peut-être indiscrète.
Non, je crois pas. Je pense que c'est une matière tout à fait autorisée. En fait, bon, je suis d'une formation de lettres classiques, très intéressé par la langue, la langue française, mais les langues anciennes également. Et puis, lorsque j'ai commencé à travailler dans les services du Premier ministre, eh bien, j'ai été colleté au problème de la compréhension du langage administratif. Tout le monde me parlait dans ce langage et j'étais censé répondre dans ce même langage. Et je ne comprenais pas toujours tout. Donc, je me suis formé moi-même et puis j'ai formé d'autres personnes lors des séminaires dans les services du Premier ministre, à Sciences Po ou bien au CELSA. Et je me suis rendu compte là que tout le monde croyait comprendre le langage administratif, mais qu'au fond, tout le monde restait un peu dans sa superficie. D'où l'idée de trouver un ouvrage qui soit pas simplement une compilation de mots avec des définitions, mais un travail vraiment sur la terminologie administrative avec des spécialistes qui ont donc réalisé avec moi cet ouvrage.
Qui sont les auteurs ? Sont-ce des universitaires ou des praticiens de l'administration ?
Alors moi j'ai voulu mêler universitaire et praticien de l'administration parce que je pense que les deux domaines peuvent communiquer. Alors, il y a bien sûr des universitaires, d'ailleurs l'un est un spécialiste des langages de communauté, des langages d'entreprise, d'Ardo Dvecky, et d'autres viennent de la sphère administrative. Il m'a semblé très important de ne pas rêver le langage administratif, mais de partir des pratiques de terrain. Ce n'est pas tant en lisant tous les textes administratifs que l'on peut réaliser un dictionnaire de cet ordre, c'est aussi en demandant aux gens quels sont les termes qui sont utilisés dans leur périmètre culturel, économique, financier, juridique, etc. Voilà un peu ce qui m'a amené à faire ce mélange entre universitaire et praticien.
À qui s'adresse ce dictionnaire et quels en sont les objectifs ?
Alors, ce dictionnaire, à l'origine, s'adressait à mes stagiaires, si j'ose dire, dont je voyais l'incapacité de dominer ce langage. Et puis, au fil du temps, je pense qu'il s'adresse aux fonctionnaires et à ceux qui ont rapport avec la fonction publique. Dans la mesure où, pour parler à la fonction publique, il faut parler, et je mets des guillemets, fonction publique, c'est-à-dire administratif. Et en sus de cela, je pense qu'il pourrait être utile pour les gens qui dialoguent avec l'administration. Lorsque je reçois ma feuille d'impôt, je reçois aussi tout un ensemble de documents m'expliquant comment je dois la remplir. Et je me suis rendu compte que beaucoup de terminologie de ce document n'était pas forcément compréhensible, entre autres, par les gens qui les recevaient. Donc, c'est un petit peu cela. On croit que tout le monde comprend, mais quand on gratte un tout petit peu, on se rend compte qu'on est loin du compte et que les gens sont dans un consensus qui est en fait une illusion de compréhension.
Oui, donc il s'adresse bien au grand public, à tous les usagers que nous sommes, puisque du berceau à la tombe, nous sommes des usagers de l'administration. Il s'adresse évidemment, bien sûr, aux étudiants et aux fonctionnaires qui passent les concours administratifs. Oui. C'est donc un objectif beaucoup plus vaste qui est de parler au grand public et aux usagers de l'administration.
Oui. Et surtout, je dirais, d'explorer un angle mort de la pédagogie et des dictionnaires. Car c'est un domaine qui est tellement composite qu'on fait comme si on le connaissait. Alors, nous avons, bien sûr, dans l'administration, des techniciens ou des spécialistes du droit. Mais sont-ils spécialistes de la langue de l'écologie? Ça n'est pas sûr. Sont-ils spécialistes de la langue de la culture? Ça n'est pas sûr non plus. Car derrière les concepts, il y a tout un ensemble de pratiques et de savoir-faire également.
Et de spécialités.
Et de spécialités.
Alors, dans votre avant-propos, vous évoquez justement l'habit d'arlequin que l'on appelle le langage administratif. Et vous parlez d'un empilement de domaines disparates, reflet d'une administration complexe. Il y a donc une pluralité de langages administratifs qui se superposent. Alors, quels sont-ils, ces langages?
Alors, tout d'abord, je voudrais répondre sur la métaphore de l'habit d'arlequin. En fait, comme vous le savez, l'habit d'arlequin est composé de morceaux de tissu cousus entre eux. Bien. Eh bien, en fait, le langage administratif, c'est un peu ça. Du langage juridique, du langage de la culture, du langage de l'économie, du langage des finances, du langage de l'écologie, du langage des technologies, enfin, bref.
Du langage militaire.
Voilà, du langage militaire.
Budgétaire, fiscal, etc.
Absolument. Et tout ceci a été cousu ensemble, d'où l'habit d'arlequin, pour faire ça. Cette chose que l'on n'interroge pas assez, qui est très vivante, mais qui est aussi extrêmement chatoyante et complexe, puisqu'il faut avoir des compétences sur à peu près une douzaine ou une quinzaine de domaines essentiels pour s'en sortir dans le domaine administratif. Donc, voilà un peu le pourquoi de cet habit d'arlequin qui, à mon avis, rend compte de cet empilement de domaines qui n'étaient pas forcés de fonctionner ensemble.
Il est vrai qu'en lisant ce dictionnaire, l'on est frappé par la diversité des domaines abordés. Vous en dénombrez une trentaine dans le relevé des entrées par domaine que vous proposez de manière très utile à la fin de cet ouvrage. De l'aide sociale à l'Union européenne, en passant notamment par la culture, la défense, le développement durable et bien entendu le droit administratif, la fonction publique et la rédaction administrative à laquelle vous consacrez une place importante. Je voudrais citer notamment un encadré où vous proposez les définitions de plus de 140 verbes, les 140 verbes de l'administration, qui sont utilisés, donc écrivez-vous, avec une acception particulière, héritée de l'ancien temps ou forgée par l'usage. J'aimerais que vous nous en donniez un ou deux exemples, quelques exemples.
En fait, ce que vous évoquez est une des parties les plus difficiles à réaliser dans ce dictionnaire, parce qu'il a fallu aller dans les textes eux-mêmes pour repérer pas simplement les 50 verbes importants, mais tous les autres. Hein. Donc, parmi ces verbes, eh bien, ressortir à la compétence de réguler, nous l'employons souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire pour le grand public? Prendre la tâche de habiter bourgeoisement, qui montre bien que notre langage administratif est hérité des pratiques ou des façons de penser d'un autre temps, du 19e siècle en l'occurrence. Bon, alors si vous mettez habiter d'un côté et bourgeoisement de l'autre, vous n'avez pas forcément le sens de l'expression habiter bourgeoisement. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens lorsqu'ils le lisent dans leur beau de location, par exemple, hein? Donc, toutes ces choses-là sont importantes car c'est une façon de s'adresser à l'administration. Par exemple, les termes affectés, affecter un budget. Il n'y a rien d'émotif dans ce terme-là. Bon, comment le savoir si on ne l'a pas appris? Abonder un budget. Là aussi, quand on tombe dans ce langage, on se demande au départ ce que ça veut dire. Après, évidemment, on rentre dans cette communauté administrative et on parle ce langage. Donc, toute cette partie-là est assez importante car non seulement il y a un répertoire des verbes les plus utilisés dans la langue administrative, mais aussi tout un ensemble de citations. Car toutes les citations qui suivent les définitions de ces verbes ont été en quelque sorte pillées des documents administratifs. Il y a là des citations de l'Assemblée nationale, des citations du Sénat, des citations des grands organismes d'État. Donc tout cela est vrai. Ce ne sont pas des idées d'universitaires qui sont là, ce sont véritablement des textes écrits par des administratifs et qui ont été validés.
Des exemples concrets.
Absolument.
Et réels.
Et réels. Donc, quelqu'un qui voudrait parler administration peut trouver là non seulement les termes, mais aussi leur emploi.
Effectivement, la construction de ce dictionnaire est fondée sur le choix de 1000 termes. Il y a plus de 1000 articles. Et d'ailleurs, comment avez-vous effectué le choix de ces mots-clés, de ces 1000 mots-clés? C'est une des questions que je me suis posée.
Eh bien, j'ai eu la chance d'avoir un éditeur qui m'a fait confiance et qui m'a dit « Vous avez carte blanche, l'important c'est de faire quelque chose qui se tienne et qui soit utile et qui soit pratique ». Donc, je me suis dit « Allons aux sources, réunissons ces universitaires et ces praticiens et demandons-leur, dans leur pratique quotidienne, quels sont les termes qui leur semblent les plus importants ». Évidemment, les termes juridiques ont été les plus importants, et les termes purement administratifs également, mais aussi, il y a tout un corpus de termes sur l'écologie, sur la culture.
Termes techniques,
termes culturels. Voilà. Et donc, ça a été cela. Également, j'ai demandé à ce que certaines institutions soient développées, car je me suis rendu compte du trouble que pouvait créer dans les esprits la juxtaposition de termes comme Conseil de l'Europe, Conseil de l'Union européenne, Conseil européen, qui ne recouvrent pas les mêmes définitions et les mêmes périmètres. Donc, toutes ces choses-là qui prêtent à confusion sont des terminologies qui doivent être explicitées pour que les gens, dans l'administration et autres, ne fassent pas de contresens.
Alors, chaque terme, comme je le disais, comporte une définition, un exemple, vous l'avez expliqué, mais l'on trouve en plus des remarques signalées dans des encadrés, et ces remarques sont tantôt pratiques, techniques, culturelles. L'on trouve des tableaux et des encadrés très intéressants. J'ai parlé des verbes tout à l'heure, des verbes de l'administration, mais il y en a d'autres sur le Parlement européen, sur le Conseil de l'Europe. Et puis enfin, chaque terme est accompagné de corréla, c'est le terme que vous employez, qui renvoie au réseau dans lequel le terme prend tout son sens ou trouve des compléments. Donc c'est vraiment un travail très approfondi et très riche, et je ne sais pas quelle a été la durée d'élaboration de cet ouvrage, mais c'est un énorme travail, certainement.
Alors la durée d'élaboration, ça a été 2 années et demie avec tous les contributeurs. Moi-même, je me suis chargé de tout ce qui était justement les verbes, entre autres, tout ce qui est la rédaction administrative. Bon, et le concept lui-même a répondu à un besoin, à plusieurs besoins, une sorte d'arborescence de besoins. Ce qui n'est pas en encadré, c'est ce que l'on doit savoir de façon incontournable. C'est la base de la connaissance administrative. Et ensuite, cela fait partie de la culture administrative. Donc, vous avez, disons, l'urgence, et puis ensuite, vous avez ce qui permet de fixer la mémoire. C'est-à-dire une réflexion sur le président de la République, ou bien une réflexion sur qu'est-ce qu'un établissement public de santé, ou des choses beaucoup plus futiles, de ci, de là. Si bien que la personne peut aller d'un article à l'autre, en enrichissant sa culture, mais aussi en acquérant les bases du langage administratif. Donc, c'est une sorte d'ouvrage qui pourrait d'ailleurs être mis directement sur intranet, avec des cliquages, pour aller plus loin. Il y a un premier niveau de connaissance, et il y a d'autres niveaux.
Il y a plusieurs niveaux.
Voilà. Et je crois que cela répond, disons, aux besoins des différents publics qui sont impliqués dans cet ouvrage.
Donc, vous nous avez expliqué, au fond, quelle a été votre méthodologie, comment le choix des mots a été effectué. Je voulais tout de même vous questionner sur les efforts de simplification du langage administratif qui ont été mis en œuvre depuis une trentaine d'années au niveau des pouvoirs publics. Malgré ces efforts, il me semble que le langage administratif reste relativement obscur et hermétique pour le grand public, et qu'il est parfois même assimilé à un jargon. Donc pensez-vous que le vocabulaire administratif puisse être compris par tous ? N'y a-t-il pas de nouveaux efforts à faire ? Et je dirais même, peut-être, cela touche la réforme de l'État, au fond.
Oui, et je pense que la raison d'être de cet ouvrage, c'est de mettre chacun en face de cette complexité. Et d'ailleurs, en le faisant, on s'est bien rendu compte qu'on ne savait pas tout. Et il fallait 10 personnes pour réussir à faire quelque chose qui n'est pas exhaustif, mais qui est tout de même assez important déjà. Donc, il est évident que tout le monde appelle à une simplification du langage administratif dans la mesure où c'est un processus de communication entre l'État et les administrés, mais aussi les administrés et l'État. Cela dit, réformer le langage administratif est très difficile, car comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est un habit d'Arlequin. Donc, c'est la réforme du langage juridique qui amènera, par ricochet, une réforme de certains points du langage administratif, une simplification du langage de l'écologie qui va se répercuter sur le langage administratif. Je pense que le langage administratif sera un aboutissement des réformes ou des simplifications de langage dans ces différents domaines. Et je sais qu'il y a une commission de terminologie qui se réunit régulièrement pour réfléchir non seulement à la terminologie administrative, mais à sa traduction. Car c'est très important, bien entendu, là aussi, de pouvoir être compris par tous les étrangers qui investiguent notre système.
Le langage administratif est une langue vivante qui ne cesse d'évoluer, comme vous le dites dans votre avant-propos. Quelles sont les principales évolutions que vous constatez dans la période récente ? Enfin, il y en a une qui est, me semble-t-il, une inflation des sigles et des abréviations. Vous en donnez une liste dans cet ouvrage et cette inflation contribue, à mon avis, à rendre ce langage opaque. Si l'on se reporte, par exemple, simplement à la lettre Z, on parle de ZAC, de ZAD, de ZO, de Z, de ZFU, de ZRR, de ZRU, de ZUB, de ZUS. Oui. Que d'amour des sigles.
Oui, je ne sais pas si c'est un amour des sigles. En tout cas, c'est une réalité de cet amour des sigles. Mais il est vrai que tout cela mis bout à bout, ça fait des pages de sigles. Mais ce que moi j'ai remarqué, c'est que dans une réunion entre des gens de l'administration, on parle par sigles. Et si vous n'intégrez pas ces sigles, aussi barbares soient-ils, vous êtes exclu de la réunion. Vous devez faire bonne figure, mais vous ne comprenez pas. Donc, l'intérêt, c'était aussi de ramasser tous ces sigles qui changent aussi au fil du temps et de mettre aussi les contributeurs de l'administration devant leur réalité. Cette inflation dont vous parlez est la réalité de l'administration. Et nous devons peut-être réfléchir à devons-nous continuer à obscurcir ainsi notre paysage ?
Oui, cette évolution n'est peut-être pas positive puisqu'elle contribue, semble-t-il, à obscurcir au fond le discours de l'administration. Mais peut-être avez-vous noté d'autres évolutions récentes qui soient plus positives au fond.
Alors juste un petit point sur ces sigles, ils correspondent bien sûr à des choses. Le Conservatoire National des Arts et Métiers, le CNAM, peut-être vaut-il mieux un sigle plutôt que de répéter toujours Conservatoire des Arts et Métiers. Ce qui est embêtant, c'est que quand les sigles sont absolument inutiles, surtout lorsqu'ils sont éphémères. Votre question sur l'évolution du langage, votre autre question donc, me fait dire bien sûr que tout dictionnaire de l'administration doit évoluer. Puisque des pans entiers de l'administration maintenant sont consacrés aux nouvelles technologies. Un dictionnaire de l'administration qui ne parlerait pas d'Etalab ne serait pas un dictionnaire de l'administration, mais qui comprend Etalab dans le grand public.
Faut bien rappelez-moi ce qu'est Etalab. Alors,
Etalab, eh bien, c'est l'ouverture des données publiques à tout un chacun, de façon gratuite pour la plupart des données publiques. C'est un grand chantier de l'État, qui permet donc
de mettre à disposition l'ensemble des données publiques.
Donc ceci, je n'aurais pas osé le mettre il y a 3 ans, parce que ça n'existait pas encore dans cette dimension. Donc les technologies, certes, l'évolution aussi, par exemple, relative à l'écologie, a sécrété tout un ensemble de termes et de sigles, d'acronymes, etc., qu'il est important d'ajouter. Et je suis sûr que dans les années qui viennent, d'autres inflations vont arriver. Le langage de l'Europe, par exemple, que beaucoup ont pu mettre en question, est lui aussi extrêmement difficile à intégrer pour nos concitoyens, comme on le disait tout à l'heure. Donc tout ceci est toujours en devenir, et je crois que c'est un peu l'intérêt aussi de travailler sur le langage administratif, car nous travaillons sur une langue vivante, qui vient de l'usage.
Voilà, et qui s'est façonnée au cours des siècles. Yves Bomatti, merci. J'invite nos auditeurs à se plonger dans ce livre qui est à la fois un dictionnaire et un ouvrage pratique de référence sur l'administration. Il permet évidemment d'acquérir une meilleure compréhension du langage administratif, mais aussi une meilleure culture sur l'administration, en explorant l'ensemble des domaines de celle-ci, et donc pour nous, les usagers, sans doute de mieux communiquer avec elle. Alors c'est aussi bien sûr un ouvrage indispensable pour ceux qui préparent un concours administratif. Je rappelle son titre, « Dictionnaire de l'administration ». Les mots-clés du vocabulaire administratif, 540 pages, au prix de 29,90 €, édité par Studirama, et vous pouvez l'acquérir dans les grandes librairies ou sur Internet. Yves Bometti, merci pour cet entretien et à bientôt.